bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, un nouveau mercredi, un nouveau Business Club. On se retrouve comme à notre habitude avec Mabloura Anne, fondateur de l'agence Mi Agency. Et pour ce nouveau numéro, on accueille un invité qui porte plusieurs casquettes. Ancien footballeur, il est aujourd'hui responsable de recrutement et de la communication au FC Versailles. Il a également fondé l'agence M7 Conseil. Nous avons le plaisir d'accueillir Michaël Miché. Bonjour à vous deux, comment ça va ?
Ça va.
Ça va, merci de l'invitation.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, comme je disais, tu as joué au football à un très bon niveau. Tu as déchaussé les crampons aujourd'hui et malgré tout, tu es resté dans cet univers qui est le football. Est-ce que tu peux revenir plus en détail sur ton parcours en tant que joueur et comment tu as été amené à devenir responsable de la communication et du recrutement au FC Versailles ?
Ouais, j'ai un parcours qui est assez atypique au final, même si j'ai toujours été lié de très près au foot. Ça a été toujours le fil rouge. Je suis issu de la région parisienne, donc j'ai joué moi très jeune dans le 77. Après, suite à un déménagement, je suis arrivé dans le 95, donc j'ai joué à Sannois, Saint-Gratien. Et puis je suis parti de Sannois en 2006. J'arrivais tout juste moi en tant que senior. J'étais en CFA2, je m'entraînais avec le groupe national. Et puis très tôt, j'avais eu l'envie de quitter la région parisienne. C'était quelque chose qui était dans un coin de ma tête depuis longtemps. Donc j'ai eu l'opportunité en 2006 avec un ami qui joue en Bretagne. Je suis allé faire un essai dans son club. Ça n'a pas pu se faire avec son club pour des questions professionnelles, mais le coach en question m'a orienté vers un autre club qui était juste à côté, en Mayenne. Et donc j'ai signé là-bas. J'ai fait 3 ans en Mayenne. Après, je suis parti en Bretagne. J'ai joué 6 ans en Vendée. Et puis j'ai arrêté de jouer moi, en 2014, si je ne dis pas de bêtises. En 2016, pardon. Et très tôt aussi, à 28 ans, j'ai eu l'envie de commencer à penser à l'après, parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre un petit peu du football, mais j'étais pas non plus professionnel, donc je roulais pas sur l'or. Il était important de commencer à préparer la suite. À savoir que moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais rêvé d'être footballeur pro, en fait.
Okay.
J'avais un autre rêve, c'était celui d'être journaliste sportif. Mes idoles, c'était Thierry Gilardi et Nathalie Yaneta. Donc voilà, c'est les gens qui m'ont drivé quand j'étais petit. Donc j'ai fait mes études en conséquence. Et puis quand je suis arrivé après mon bac, il était temps de choisir. Je voulais rentrer en école de journalisme. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu un peu plus sérieux au niveau du foot avec Sannois, avant que je quitte la région parisienne. Donc il a fallu que je fasse un choix. J'ai fait le choix de mettre les études de côté, en me disant que j'aurais l'opportunité de revenir, de me concentrer sur le foot. Ça m'a amené jusqu'où ça m'a mené. Et en fait, à 28 ans, en commençant à penser à la suite, je me suis remis dans des études de journalisme. J'ai repris Donc après mon bac, j'ai passé un DEUC de communication, puis une licence de communication. J'ai mis de côté les études. Et puis à 28 ans, j'ai repris un master européen de journalisme pour me remettre dedans.
Okay.
Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler pendant un an et demi dans un média qui traitait le football dans la Ligue Atlantique. Donc à l'époque, il s'occupait des départements Maine-et-Loire, Vendée et Loire-Atlantique. Et puis sur ma fin de carrière en national à Luçon, où je m'entraînais et je jouais, j'étais capitaine de la réserve, il y a eu une possibilité de prendre le poste de responsable communication. Le club était en course pour la montée en Ligue 2. Et le président avait personne sur la communication. Moi, je venais de terminer mon aventure de journaliste. Et il m'a demandé si je pouvais lui proposer un projet de développement de la com. Donc voilà comment je suis arrivé à la com. J'ai bossé un an et demi là-bas. Ensuite, il y a eu dépôt de bilan du club. J'ai eu une belle opportunité de rejoindre le monde professionnel au Chamois Niortais, qui m'a proposé pareil ce poste de responsable communication attaché de presse. J'ai bossé 2 ans et demi au Chamois Niortais. L'aventure s'est terminée parce que j'avais envie de me rapprocher un peu du terrain. J'avais l'impression d'avoir fait le tour au niveau de la com. J'ai été directeur sportif d'un club de National 3 pendant un an. Ça s'est arrêté à cause du Covid et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon agence.
Ok.
Voilà pour le parcours.
Ok, c'est un super beau parcours. Mam, justement, au sein de son parcours, il appuie souvent sur l'importance des études qui ont été primordiales dans son parcours. C'est un peu la même chose pour toi. Et on a besoin du soutien familial souvent. Toi, comment ça a été perçu le fait que tu mets plus en avant le sport à un moment donné et que tu peut-être délaisses un peu les études?
J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a toujours été présente et qui m'a forcé entre guillemets à avancer dans les études, mais c'était aussi naturel. J'avais aussi plutôt une appétence pour l'école, donc ça s'est plutôt facilement passé, on va dire, avec moi. Et après, le choix du foot, je l'ai fait, j'avais 20 ans. 19 ou 20 ans. Donc, c'était un âge où j'avais déjà quand même bien avancé dans mon cursus scolaire. J'avais déjà de bonnes bases, je pense. Et du coup, j'ai eu beaucoup de liberté par rapport à ça. À partir du moment où j'étais convaincu par ce que je voulais faire, j'ai la chance d'avoir une mère qui m'accompagne dans tout ça et qui m'a dit, bah, si tu sens que c'est ce qu'il faut faire, vas-y. Donc, okay. J'ai pas eu de problématique par rapport à ça. Ça s'est fait plutôt naturellement. Et comme la volonté de revenir vers les études à 28 ans, c'est fait aussi naturellement.
Ok. Est-ce que tu arrives, toi, à te reconnaître un peu dans ce parcours-là, vu que c'est un peu similaire au niveau du soutien et même de l'importance de l'éducation?
Bah, il a dit un mot, hein, ça... enfin, il a dit le mot mère. Ouais. Je pense que moi, dès le départ, ma mère n'a pas rigolé. Il faut que tu aies un bagage. En plus, l'athlétisme, c'est encore différent du football. Mais dès le départ, je pense que c'était une condition sine qua non de dire tu vas faire tes études. Tu vas mettre des choses en place pour qu'une fois que ta carrière sera terminée, avoir le choix en fait. Parce que je pense que c'est une vraie clé aujourd'hui, les études, on peut le voir de plus en plus. Tu peux faire beaucoup plus de choses, tu peux te former rapidement sur un domaine. Et quand tu as une expertise en plus, quand tu as aussi un bagage en plus qui est d'avoir fait du sport de haut niveau, lui il connaissait les coulisses par exemple du football et il peut appliquer ce qu'il a appris dans ces écoles là donc c'est hyper important et c'est vraiment fondamental aujourd'hui d'avoir une idée de pouvoir faire des études et de se développer à côté d'une activité sportive.
Ok. Dans le football et dans le sport de manière générale, tout le monde n'a pas forcément cet éveil au niveau de la formation scolaire. Comment tu le perçois ça? Est-ce que même avec ton rôle aujourd'hui, t'essayes de sensibiliser les jeunes par rapport à ça?
Ouais, c'est une grosse, grosse difficulté et je pense qu'elle est encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Moi, j'ai eu, on en parlait, on le disait il y a quelques secondes, l'entourage familial est très, très important. Moi, quand j'avais 14-15 ans, si j'avais pas de bons résultats à l'école, ma mère m'empêchait d'aller au foot. Donc à un moment donné, si tu as envie d'aller au foot, ben, tu n'as pas le choix, faut faire ce qu'il faut à l'école. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une grosse difficulté supplémentaire, c'est toute cette visibilité qu'il y a autour du foot et du sport en général, avec les réseaux sociaux, avec l'impact financier aussi qu'il y a. J'appelle souvent ça, moi, dans le foot, le projet Mbappé. Voilà, on est en plein dedans. C'est une grosse problématique parce qu'aujourd'hui, au-delà des joueurs, des jeunes joueurs, il y a aussi l'entourage qui, de plus en plus, est dans cette réflexion de se dire, j'ai peut-être le futur prodige à la maison, donc qui peut-être, il y a quelques années, orientait les enfants à se solidifier en termes de bagages, comme le disait Man tout à l'heure, sur l'école. Et au final, maintenant, c'est peut-être, bah ouais, il y a peut-être une possibilité d'avoir le prochain Mbappé, donc autant tenter l'aventure.
On voit les enfants comme un investissement.
C'est un peu ça, ouais. Mais malheureusement, je dis un peu en étant gentil, parce que parfois, c'est beaucoup ça. Donc il y a cette difficulté-là supplémentaire qui se rajoute. Et c'est vrai que du coup, pour essayer de sensibiliser les plus jeunes, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, je pense que c'est important de le proposer. Après, encore une fois, au-delà des joueurs qui sont, eux, je trouve, et des athlètes qui sont dans leur monde, un petit peu à ce moment-là, c'est l'entourage surtout qui, pour moi, est primordial.
Ok. Tu penses que l'aspect économique du football a pris le pas sur la passion?
Oui. Je pense qu'aujourd'hui, oui. C'est difficile de faire des généralités, mais je pense qu'en majorité, moi, je suis toujours très surpris depuis quelques années. Et c'est une des choses qui m'a fait arrêter très vite le foot, enfin, en tout cas, réussir à faire la bascule. C'est que je trouve que les plus jeunes aujourd'hui aiment beaucoup le foot pour tout ce qu'il y a autour, pour okay. tout ce que ça entraîne. Alors il n'y a pas que l'argent, mais en partie l'argent. Et je suis toujours surpris de ça. Parce que, encore une fois, sans faire le vieux singe, mais parce que je ne suis pas très vieux, hein, mais je trouve qu'à mon époque, quand même, nous, on jouait au foot, mais pour jouer au foot, quoi. Parce qu'on aimait ça, parce qu'on aimait l'OM, parce qu'on aimait le PSG, parce qu'on aimait qu'il y ait un vainqueur à la fin des matchs et parce qu'on aimait la compète. Aujourd'hui, quand on parle avec les plus jeunes, encore une fois, même si j'évite de faire des généralités, mais en grande majorité, c'est des garçons qui vont se dire « Bah ouais, parce qu'on va me voir sur les réseaux sociaux, parce que je vais pouvoir être sur les sites avec des copines, avec ci, avec ça. Parce que l'argent, forcément, tout ce que ça entraîne, je vais pouvoir faire ci, faire ça. » Mais rarement, on entend « Bah, parce que j'aime jouer au foot, quoi. Mmh. » Tout simplement. Et je trouve que c'est dommage, mais encore une fois, on pourrait élargir. Hein. Je pense que c'est pas que spécifiquement lié au foot et au sport. C'est la génération actuelle qui est un peu plus comme ça, dans une génération où... Maintenant, on consomme les choses très rapidement à l'instant T et le foot ne fait pas exception.
Ok. D'ailleurs, je me posais la question, enfin, j'allais te poser la question juste après, puisque on le remarque beaucoup avec le foot, vu la visibilité et l'économie autour de ça. Mais est-ce que ça, tu le remarques dans d'autres sports? Enfin, même dans l'athlétisme, est-ce que C'est quelque chose que tu remarques?
Non, c'est différent. Après, ce que tu remarques, c'est entre guillemets les sports entre guillemets dits mineurs qui ont un temps fort, un temps faible. Donc un temps très fort, par exemple, c'est nous quand on est au JO, l'exposition elle est incroyable. Tu reçois des milliers de messages d'encouragement, mais tu reçois aussi énormément de sollicitations parce que les gens veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça, tu peux le vivre et tu peux le sentir. Et tu dis, bah punaise, s'il y a des gens qui le vivent vraiment au quotidien, c'est fou. Et ces mecs-là, ils le vivent au quotidien. Que ça soit une bonne ou une mauvaise performance, il y en a qui vont mettre, qui vont se staffer pour mettre du contenu avant les matchs, qui vont mettre du contenu après les matchs. Et tout ça fait que bah, tu es dans le risque des gens, les gens donc, vont te solliciter. Une actualité, les joueurs, ils peuvent le dire, c'est quand tu es très bon, il y a tout qui vient à toi. Et c'est vrai que. Bah, pour beaucoup, c'est voir que ton coéquipier à droite a ça. Les gens veulent peut-être la même chose ou veulent faire d'autres choses qui vont faire qu'on va parler d'eux. Et c'est un engrenage et qui n'est pas forcément très bon. Ouais, c'est vrai pour les jeunes. Et ce que tu dis, c'est très vrai. C'est que c'est rare maintenant d'entendre « Oui, j'aime le foot. C'est... Non, mais moi, je veux jouer là parce que là-bas, c'est super bien. J'aurais ci, j'aurais ça. » Et c'est un ensemble. C'est un ensemble et c'est dommage pour ce sport-là. Les sports dits mineurs, je ne pense pas que les gens... puisse vouloir dire ou vouloir être d'abord des stars avant d'être performants dans leur sport. Et encore une fois, c'est un métier quand même de performance. Et c'est en étant performant que tout viendra, mais les gens ont peut-être parfois du mal à le comprendre.
Ok. Sans rentrer dans de l'utopie, est-ce que vous pensez que cette direction peut changer ? Dans le bon sens, on va dire, vu que là, ça a l'air d'aller dans le mauvais sens, entre guillemets.
Moi, j'ai du mal à l'imaginer. Sincèrement, à l'heure actuelle, j'ai du mal à l'imaginer que la tendance puisse s'inverser. Je pense que, encore une fois, le point central que représente maintenant la notoriété et l'argent, ce point-là a pris trop d'importance. Okay. Et je pense que c'est vraiment ça, parce que le foot, c'est ça parce que l'argent et la notoriété sont là. Mais je suis persuadé, on le saura certainement jamais, mais qu'on met la même notoriété, la même visibilité, le même argent dans un autre sport, peu importe les valeurs, je pense que ça prendrait la même direction.
Okay.
Parce qu'à un moment donné, c'est tout cet engouement qu'il y a autour, tout ce que ça crée comme économie, comme envie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont envieux de rentrer dans ce milieu-là pour tout ce que ça représente. Mmh. Ça crée un déséquilibre.
Ouais, c'est vrai, après il y a un sujet on avait traité dans un des podcasts, c'est la mondialisation.
Ouais.
Aujourd'hui tu vois ce qui marche le plus c'est le sport et la mode, donc avec tous ces crosses là, et aujourd'hui tout le monde se tire un peu la couverture. La mode veut dire voilà, on a le monopole maintenant aussi sur le sport, on fait ci, des marques investissent autour de creative directors qui viennent peut-être parfois de la musique. Mmh. Où là les gens aiment bien dire ouais mais la musique ça va avec le foot, etc. Mais non, c'est les gens se poussent à le faire. Mmh. Et plus tu le pousses et plus tu cherches en fait la visibilité de tout le monde, plus tu vois entre guillemets une petite lumière qui fait que les gens veulent être tous autour, et parfois c'est dommage, c'est vraiment au détriment des sportifs.
Ok, on va recentrer le débat sur toi, Michael. Donc je voulais savoir comment tu arrives à gérer le fait d'être à la fois responsable de la communication et du recrutement à Versailles, et d'avoir fondé ta propre agence, même si tu l'as mis en stand-by, ton activité, il me semble, depuis novembre 2021. Déjà, pourquoi tu l'as mis en stand-by, ton activité? Et donc, comment tu arrives à gérer ces casquettes, ces différentes casquettes?
Alors, pour te répondre sur l'activité, ça a été tout simple, puisque la grande majorité de l'activité était basée, depuis que j'avais lancé l'agence, sur la représentation de joueurs. Donc forcément, à partir du moment où moi je rentrais dans le fonctionnement au quotidien d'un club, il y avait un légitime conflit d'intérêts qui pouvait se présenter. Donc il était hors de question que je puisse laisser le moindre doute par rapport à ça. Donc c'est pour ça que l'agence a en grande partie été mise en stand-by, même s'il y a une partie communication aussi, gestion de communication d'athlètes qui est prise en charge aussi par l'agence et puis qui peut continuer un petit peu, mais la grande majorité de l'activité a été mise en stand-by par rapport à ça. Et puis pour répondre à ta question par rapport à la double casquette, on me la pose souvent, parce que c'est vrai que ce sont deux domaines qui ont rien à voir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré Jean-Luc Arriba, le directeur général du club, qui venait d'arriver lui aussi au mois de novembre, il avait besoin de structurer le club sur différents aspects. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon parcours atypique, j'ai la chance d'avoir travaillé dans ces deux secteurs d'activité-là, qui sont deux secteurs qui me plaisent. Mais j'étais arrivé à un point où la communication était devenue quelque chose que je pensais presque obsolète pour moi. Je voulais vraiment me rapprocher du terrain, avoir d'autres responsabilités. Et j'en ai discuté avec Jean-Luc, donc je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Lui, il m'a dit qu'il était à la recherche de plusieurs personnes. Et en fait, quand il cherchait à la fois sur la partie cellule de recrutement et à la fois sur la communication, il m'a proposé tout simplement, au moins dans un premier temps, de gérer ces deux domaines-là, sachant que le club était en National 2, donc que c'était quand même plutôt jouable, on va dire, de jongler sur les deux casquettes. Mais il a été très clair avec lui dès le départ qu'à partir du moment où le projet était ambitieux et que la volonté était de grimper les échelons, le but c'était de créer un socle à la fois sur le recrutement, puisqu'il n'y avait rien de mis en place en termes de cellules, et au niveau de la communication, puisqu'il n'y avait personne non plus, en tout cas en salarié au club à ce niveau-là, de mettre en place un socle, et puis qui nous permettrait avec le temps de me décharger d'une des deux casquettes et de faire une transition avec quelqu'un qui viendra prendre la suite, donc notamment sur la communication. Donc là, ça va être certainement le cas à partir de la saison prochaine, puisqu'on a la chance de monter en national et que je sais pertinemment que je ne serai pas en capacité de gérer ces deux casquettes-là, en tout cas pas avec autant d'efficacité qu'il le faudrait.
Tu sais déjà ce que tu veux faire ?
Oui. Non. Ça avait été clair dès le départ, hein. Jean-Luc sait que ma vraie volonté, c'est d'être sur le recrutement. Je lui avais dit très clairement qu'aujourd'hui, aller travailler dans un club pour faire que de la communication, ça ne m'intéressait plus. Mais que par contre, si j'arrivais dans un club avec une fonction qui me convenait et qu'il y avait des besoins en termes de communication et que je pouvais donner un coup de main par rapport à mon parcours, j'ai quand même bossé 4 ans et demi dans la communication, je le ferai avec grand plaisir. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. On essaie de mettre des choses en place. On a eu la chance d'avoir un super parcours en Coupe de France qui nous a aidé aussi à gagner en visibilité. Et puis là, le but sur les prochaines semaines, pour la reprise de la saison prochaine, ça va être de trouver quelqu'un pour faire la transition. Donc on verra si c'est quelqu'un qui prend complètement qui chapeaute complètement le secteur communication, ou c'était une des réflexions. Jean-Luc voulait peut-être aussi que je reste un petit peu à la tête de la communication pour jeter un œil en tout cas, et puis avoir quelqu'un qui s'en occupe en étant en dessous. Moi, je serais plus une sorte de contrôle de tout ça, au moins dans un premier temps, et puis si la personne correspond à nos besoins, qu'elle puisse prendre la suite tranquillement.
D'accord.
Okay. Et en quoi consiste en fait ton rôle exactement au sein du recrutement ? Est-ce que tu fonctionnes avec des scouts ou tout passe par toi ? Et est-ce que c'est différent d'un rôle de directeur sportif finalement ? Parce que dans les clubs, souvent, on parle de directeurs sportifs qui ont un poids sur le recrutement. Est-ce que...
Bah, la grande différence, c'est que le directeur sportif prend des décisions. Il a cette fonction-là, il a dans ses responsabilités le fait de choisir. Moi, je suis plus là dans un accompagnement à l'heure actuelle. Il n'y avait pas de cellule de recrutement au niveau du club. Le fonctionnement a été fait depuis des années parce que le club a franchi des paliers très vite entre le coach et le président. Et moi, la volonté de Jean-Luc, quand il m'a pris, c'était de créer justement cette cellule de recrutement qui n'existait pas, de la mettre en place et de mettre des choses qui seront tous des outils pour le coach. Le but, c'est de l'aider, de l'accompagner, de lui permettre lui de se concentrer au maximum sur ce qu'il aime faire, c'est-à-dire entraîner, et par contre lui donner plein d'outils pour que lui puisse avoir à sa disposition un gain de temps quand on cherche au niveau du club à recruter des joueurs. Donc je suis arrivé, tout simplement, il n'y avait personne au niveau de la cellule de recrutement. Donc moi, j'ai essayé de faire déjà en arrivant par rapport à mon réseau et à ce que je connaissais, puisque je suis arrivé au mois de novembre et que le mercato hivernal arrivait très vite du mois de décembre, donc il a fallu se pencher là-dessus. On a recruté 4 joueurs cet hiver, et puis là on est en train de mettre des choses en place. On a recruté un analyste vidéo pour l'instant en prestataire qui nous accompagne et qui fait de l'analyse vidéo, alors à la fois pour l'équipe première et le staff technique, mais qui moi m'accompagne sur le scouting. Donc il nous fait des vidéos sur les joueurs qu'on cible, et puis là on est en réflexion pour augmenter tout ça avec une personne qui va nous accompagner sur de la partie data, et puis on a 3 personnes là en cours qui nous accompagneraient aussi sur la partie scouting pour vraiment aller voir des matchs et nous permettre d'avoir des rapports un peu plus complets sur les joueurs.
Okay. Donc ton champ d'action, il s'arrête pas forcément à l'équipe vitrine, c'est aussi sur la formation?
Non, à l'heure actuelle, moi je suis vraiment rattaché parce qu'on a deux entités du coup au niveau du club. Okay. Il y a une SAS qui a été créée il y a quelques mois, et donc moi je suis rattaché à la SAS. Maintenant, Bien entendu, quand vous travaillez sur le recrutement du club, il est important que tout le monde travaille en harmonie, main dans la main. Donc aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au club, c'est des joueurs qui potentiellement atteindront l'équipe première. Donc okay. il y a forcément un lien qui est fait. Mais aujourd'hui, à l'instant T, moi, je suis vraiment centré sur la cellule de recrutement pour l'équipe première. Et après, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va essayer de mettre des choses en place aussi pour la formation, effectivement.
Ok. Et tu as parlé de la data, là, juste avant. Quelle importance prend la data aujourd'hui dans le football, puisque c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. La digitalisation et même les données, c'est important dans le recrutement, etc. Est-ce que tu penses qu'on attache trop d'importance aujourd'hui à la data ou ça devient un élément indispensable ?
En fait, moi, je suis partisan du juste milieu. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est devenu très important. Maintenant, j'ai du mal avec l'utilisation de la data à outrance. Ce qui peut arriver parfois, on le voit de plus en plus dans les émissions de télé consacrées au foot, ça peut-être un peu moins le cas dans les autres sports, mais j'ai toujours aussi du mal avec le fonctionnement data qui amène à une conclusion. Moi, je trouve que la data, comme la vidéo d'ailleurs dans le scouting, ce sont des supports, ce sont des choses qui sont censées soit confirmer vos idées, soit les infirmer pour le coup. Mais je pense que dans le process, il faut déjà avoir son idée, avancer dessus et après, avec ces outils-là, voir si ça nous conforte dans ce qu'on pense ou si ça nous ouvre d'autres horizons, d'autres réflexions. Donc je pense qu'il faut associer les deux, que c'est les trois pour le coup avec la vidéo, que c'est complémentaire. Mais je le vois pas comme quelque chose qu'il faut utiliser à outrance parce que pour moi, les chiffres, on peut, alors pas toujours, mais on peut parfois quand même leur faire dire ce qu'on veut. Okay. Donc il faut être, je pense, attentif à ça. Rien ne vaut de toute façon pour moi ce qui se passe concrètement sur un terrain. Donc je pense que, voilà, on n'est pas, pour reprendre l'autre sport dont on parle aujourd'hui, sur l'athlétisme, c'est plus concret. Une course, c'est un temps, c'est un résultat et basta. Sur le foot, il y a d'autres données qui rentrent en compte dans la performance d'un joueur sur le terrain. Des choses qu'on ne voit pas forcément avec des chiffres. Un comportement, un joueur qui ne va pas se replacer, par exemple, après un ballon perdu, ce genre de choses, c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier avec de la data. Mmh. Donc, il est important d'avoir l'œil sur ce genre de choses et pour moi, de compléter avec la data.
C'est aussi une chose qui est beaucoup issue de la culture américaine. On le voyait beaucoup dans le football américain, dans le basket, je pense. Et comme tu l'as dit, avec la mondialisation, tous les sports un peu s'y mettent. Est-ce que, par exemple, dans l'athlétisme, on parle de l'athlétisme, c'est la même utilisation? Est-ce qu'on abuse de la data ou
Non, je pense que nous, on s'y réfère pas trop parce que, comme il a dit, et c'est très vrai, c'est le chrono qui compte au final. Donc, rajouter de la data en plus, il n'y en aurait pas. Peut-être au niveau de l'entraînement, un athlète comme Kevin Mayer, qui a son propre staff, lui, il rajoute de la data, mais c'est juste pour pas trop en faire au niveau de l'entraînement, parce qu'il est dans une gestion des blessures et autres, et il sait qu'il a sauté 50 fois le mardi, et que s'il ressaute encore 50 fois le mercredi, il peut y avoir un risque. Donc lui, quand il finit vraiment sur un côté, il y a vraiment un côté préventif. Donc au niveau de l'athlète, non. Après, au niveau du foot, voilà, ça se met de plus en plus. J'ai fait un mémoire, mon mémoire, je l'avais fait d'ailleurs sur ça, sur la data dans le foot, autour de Toulouse, et je ne me suis pas trompé à un an, parce que je l'ai fait l'année dernière, et du coup, mes profs qui trouvaient que c'était peut-être pas ouf par rapport au truc, ça a été véridique. Et après, encore une fois, eux, ils utilisent la data, mais dans un côté où ils ont un système de jeu, où ils ont des besoins, et ils savent très bien. D'autres personnes, comme il le dit bien, c'est savoir se replacer, ou dire aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, Milik à Marseille, il a mis 20 buts en 30 matchs, mais il a mis sur les 20 buts en 30 matchs, il n'y en a quasiment aucun contre le top 5. Donc du coup, quand tu regardes, il ne t'apporterait peut-être pas sur des moments où tu as besoin de points, ou du moins où tu n'as pas besoin de perdre. Donc c'est quantifiable. Après, il y aura des gens qui me diront oui, c'est bien, d'autres c'est moins bien. Faut peut-être s'en appuyer sur d'autres sujets, je sais pas moi, de la data sur le nombre de déplacements sur une saison, le nombre d'heures d'avion, etc., sur le sommeil. Je pense que plus son club va grandir, plus ça sera peut-être important de l'avoir, au même titre que des clubs, mais que certains clubs. Mais voilà, il y a des moments où nous on a eu des crosses avec le foot, où on avait justement un peu besoin de data, un peu besoin de comprendre. Une anecdote, c'était sur Harry Kane qui se blessait énormément en allant en sélection. Et on ne comprenait pas forcément pourquoi. Et c'est juste qu'il y avait une cassure, entre guillemets, dans son rythme. Qui déclenchait ça? Et ça, c'est avec la data qu'on a réussi, entre guillemets, qu'ils ont réussi, via les infos aux données, à trouver, entre guillemets, une solution. Donc, c'est important dans le sport de tous les jours. Donc, le foot, c'est pas le basket. Le basket, c'est pas le foot. Il y a des sports où ils ont vraiment, vraiment besoin. Le baseball, pareil, hein, Moneyball, tout le monde en parle parce que c'était vraiment le film qui a révélé au grand public ce qui se passait à l'intérieur de ce sport-là. Et voilà. Donc, chaque sport est spécifique. Chaque sport a ses besoins. Et faut pas trop en abuser, mais il faut peut-être pouvoir l'utiliser un petit peu.
À bon escient. Et en plus, comme l'a dit Mickaël, on peut faire ce qu'on veut des chiffres. Et surtout qu'aujourd'hui, on est un peu dans la culture de l'instant, en comparant des époques par rapport aux data, on veut souvent refaire l'histoire.
Ouais, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, la clé, c'est l'utilisation qu'on en fait des chiffres. Un chiffre qui ressort souvent, quand on parle d'un joueur, par exemple, la performance, ça va être le pourcentage de passes réussies. On entend souvent, il a fait 92, 95, 97% de passes réussies. Ok, bon, c'est une donnée, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Maintenant, si on ne met pas ce chiffre-là en parallèle avec le nombre de passes par exemple qu'il a fait vers l'avant, c'est un truc tout bête, mais ça n'a pas la même influence. Moi aujourd'hui je suis entraîneur, est-ce que je ne vais pas préférer dans ma zone offensive un garçon qui va avoir 85% de passes réussies mais qui va avoir fait que des tentatives vers l'avant qu'un joueur qui a 92 ou 95 mais qui a fait que des passes latérales ou des passes vers l'arrière? Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'utilisation qu'on fait de ces chiffres là qui permet de donner de la pertinence ou pas. Et comme il le disait tout à l'heure, Toulouse est un très bon exemple par rapport à ça, parce qu'ils l'utilisent à outrance, mais ils savent comment ils l'utilisent. Et ça fait la différence. Quand ils vont recruter un joueur, ils savent pourquoi ils vont le recruter, comment ils vont le recruter et quels aspects ils cherchent dans la data par rapport à ça. Donc si on utilise correctement ces chiffres, bien entendu que ça peut être utile. Mais encore une fois, il y a eu la période il n'y a pas longtemps, on entendait parler des expected goals, c'était à la mode, voilà, ça s'est calmé, c'est par période.
Mais Xavier aussi il disait la même chose que toi sur l'utilisation de la sur l'utilisation de la data. Il disait que la data va pas déterminer ce qui est une bonne ou une mauvaise passe. Si tu fais une passe à un joueur qui est entouré de 4 joueurs, s'il l'a reçu dans les pieds, c'est considéré comme une passe réussie, alors que
exactement
selon le football, c'est une mauvaise passe.
C'est une passe qui met son adversaire son coéquipier exactement en difficulté parce qu'il est entouré par 4 joueurs autour de lui. Donc
exactement. On va revenir sur Versailles. Donc cette année, vous avez évolué en N2, mais grâce à une super saison, vous montez l'an prochain en N1. Déjà, comment le club appréhende la saison prochaine et quels vont être les principaux changements pour le club grâce à la montée?
On appréhende tout ça avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination en même temps. Donc voilà, c'est la récompense du travail de toute une saison, du staff, des joueurs, du club dans son ensemble. Donc c'est une récompense qu'on prend avec énormément de plaisir, avec beaucoup d'appétit, et tout simplement avec l'envie de performer la saison prochaine à ce niveau-là, de se jauger, d'amener le club à un retour à ce niveau-là après 33 ans. Donc voilà, avec encore une fois je me répète, mais il y aura beaucoup d'humilité de notre part. Maintenant, humilité ça veut pas dire manquer d'ambition. On a envie de bien figurer dans ce championnat là qui est toujours très difficile, qui le sera encore plus la saison prochaine parce qu'il y a 2 descentes supplémentaires. Donc il y aura 6 équipes sur 18 qui descendent, c'est quand même un tiers, donc c'est colossal. Donc voilà, on va essayer de travailler correctement pour se mettre dans des bonnes dispositions pour pas faire partie de ces 6 équipes là pardon.
Et au niveau des affaires, qu'est-ce qu'une montée apporte à un club comme Versailles?
Là, il y a une grosse différence quand même, parce qu'en passant en arrivant au national, on est déjà sur de la diffusion télé. Donc ça change déjà par rapport au National 2. Là, vous avez Canal+, qui rentre dans l'équation. Vous avez FFF TV aussi. Donc tous les matchs vont être diffusés. C'était un peu le cas en National 2 avec Flux Sport, mais la diffusion n'était pas toujours très très simple à mettre en place. Là, on va être sur des choses un peu plus structurées. Donc, en termes de visibilité, on franchit forcément un cap. Là, on est vraiment dans le monde juste en dessous celui professionnel. On se retrouve même au final à côtoyer des clubs qui ont encore statut professionnel. Donc là, on change quand même complètement de monde et de fonctionnement au quotidien.
Je ne sais pas si vous fonctionnez aussi avec des subventions, mais est-ce que ça a une conséquence sur les subventions ou sur les...
On l'espère. On l'espère, c'est en cours, c'est des choses qui sont décidées par les différents intervenants à ce niveau-là. Mais oui, toujours, quand on franchit des divisions, on a toujours l'espérance, parce que c'est important aussi pour le club, hein, d'avoir des soutiens forts, donc d'avoir des subventions, d'avoir nos partenaires qui sont un peu plus présents et qui nous aident aussi. Ça permet de ne pas être dépendant que de nos actionnaires. Donc oui, c'est des choses qui sont en réflexion. Maintenant, c'est un jeu, on va dire, de chaises musicales pour que chacun y trouve son intérêt. On a, nous, l'impression en tout cas d'être dans un projet qui peut donner envie. On travaille pour ça, donc on espère que ce sera le cas dans les prochains mois et qu'il y aura de plus en plus de gens, que ce soit sur les subventions, sur les partenaires, mais aussi sur le grand public, qui aura envie de rejoindre l'aventure et de nous suivre.
On a aussi pu constater un nouveau branding au niveau du logo. Vous avez changé d'écusson. Déjà, est-ce que T'en es à l'initiative de ça, du changement de logo, et pourquoi avoir rebrandé?
Alors, à l'initiative, non, mais on en a parlé très tôt après mon arrivée. C'était en corrélation aussi avec les envies des différents décideurs. Voilà, on avait le sentiment que le logo était manquait peut-être un peu de modernité. Donc voilà, on a eu envie de lui donner un petit coup de rafraîchissement, mais sans perdre tout ce qu'il représentait, c'est-à-dire à la fois les valeurs du club et les valeurs de la ville de Versailles avec les symboles forts. Donc voilà, on s'est attaché à respecter ça, et on trouve que le résultat est très réussi, avec pour le coup quelque chose qu'on trouve plus moderne, qui nous permettra d'habiller le stade, nos équipements de manière un peu plus quali, on va dire. Et donc voilà, ça fait partie aussi du développement du projet.
Oui. En quoi c'est important de renouveler son image de marque? On a pu le voir avec des clubs historiques comme la Juve ou le FC Nantes récemment, qui ont changé de logo. En quoi c'est important de renouveler son image de marque? Et certains sceptiques peuvent dire que oui, ça fait partie de l'histoire de garder un logo, etc. Donc pourquoi on fait ce choix de changer de logo, hormis la modernité?
Mais on en a eu aussi chez nous, parce que vous faites jamais l'unanimité quand vous vous attaquez à ce genre de choses. Mais encore une fois, on est dans un projet de développement. On a envie de faire avancer les choses, de faire avancer ce club. On a estimé à ce moment-là que le nouveau logo pouvait en faire partie. Maintenant, l'importance, elle est aussi effectivement de pas changer de logo, c'est pas renier son passé. Justement, c'est pour ça qu'on a voulu garder les symboles forts de l'ancien logo dans le nouveau. L'idée, c'est juste de se baser sur ce passé-là pour prendre un coup de boost et se dire qu'on a encore envie d'avancer un petit peu différemment. Il n'y a pas grand chose qui reste, hein, dans les clubs à part les supporters. Les personnes passent souvent. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire que ce qui est le plus important par-dessus tout, c'est le club, en fait. C'est le nom du club, c'est ce qui véhicule, c'est ce qui traîne avec lui au travers les années. Donc voilà, on respecte les symboles, on veut les garder, et on veut juste montrer qu'on a la volonté de continuer à avancer tous ensemble avec les valeurs du passé, mais à hauteur de l'image à l'instant T.
Est-ce que sur un plan business, un rebranding, ça peut permettre d'attirer de nouveaux partenaires?
Je pense oui, parce que là aussi, on est sur des choses qui permettent de mettre de la visibilité. C'est mathématique, mais vous changez de logo, on parle de ce nouveau logo. Si vous ne le changez pas, on n'en parle pas, parce que c'est l'ancien logo qu'on a depuis des années. Donc juste ça, ça remet un coup de projecteur sur la marque du club. Et en plus, nous, on est sur une période où on arrivait en fin de réflexion là sur l'équipementier. Donc ça fait partie aussi des choses qui nous permettent de réfléchir pour la suite de ce qu'on peut proposer et de ce qu'on peut tirer aussi de ce genre de choses.
Auparavant, on avait aussi le sentiment qu'il y avait une certaine réticence de la part des clubs semi-pro d'investir vraiment dans leur communication. Enfin, ce n'était pas forcément primordial d'investir dans la communication. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs qui prennent conscience que la communication, c'est vraiment important. À quel moment, toi, tu as remarqué que la communication, ça a pris le pas au niveau des clubs semi-pro, justement?
Ouais, je pense qu'il y a quelques années. Après, moi, je l'ai vécu même au-delà du semi-pro, hein, puisque quand je suis arrivé à Niort en 2016, c'était une création de poste. Pour un club qui était en Ligue 2 depuis des années, il n'y avait pas de personne à la communication en salariat du club. Donc, ce qui m'avait surpris, moi, d'ailleurs, à mon arrivée. Mais je pense qu'effectivement, c'est un phénomène qui date d'il y a 7-8 ans. C'est parti des clubs pro, justement. Toulouse, on en a parlé tout à l'heure, qui a été un des précurseurs aussi à ce niveau-là en termes de communication de clubs de foot. Guingamp a été très bon. Bon, voilà, il y en a d'autres que j'oublie certainement. Et je pense que les clubs amateurs et semi-professionnels ont pris aussi un petit peu le pas par rapport à ça, parce qu'ils se sont rendus compte avec des réflexions un peu plus poussées que développer la communication. C'était aussi développer le marketing du club, c'était aussi développer la visibilité, c'était des choses toutes bêtes sur un club semi-professionnel. Un joueur amateur qui ne connaît pas forcément un club qu'il sollicite, bah, qu'est-ce qu'il va faire comme premier réflexe? Il va aller voir le site internet du club. Donc, des choses qui ne sont pas forcément quantifiables, mais qui, en y réfléchissant, peuvent être, quand on les additionne, des choses qui vont soit vous faire venir des partenaires en plus, soit vous faire venir des joueurs, soit faire gagner de la visibilité pour vous sur plein d'autres choses. Donc je pense que les clubs s'en sont rendus compte de plus en plus, et aujourd'hui c'est primordial dans le développement des clubs. Mais encore une fois, on a du retard sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur tout ce qui est anglo-saxon et américain en termes de communication sur les sports. Eux, ils sont à des années-lumière de nous, et depuis longtemps déjà.
Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences pour un club qui n'est pas un bon communicant au niveau de la stratégie marketing? Quelles seront les conséquences pour un club que...
Moi, je pense que déjà le premier, c'est à la fois dans la fidélisation de son public. Parce okay. que si on communique pas, ben, forcément son public a un petit peu de mal à suivre ce qui se passe dans le quotidien du club, et par ricochet attirer aussi un nouveau public. Sans communication, comment on peut réussir à attirer la lumière sur soi? C'est délicat. Donc il y a ce que vous faites en termes de performance, mais il y a aussi la manière dont vous présentez ça. Aujourd'hui, et encore une fois, moi je touche du bois, j'ai un petit peu de chance pour l'instant, mais sur la com, quand je suis arrivé à Niort, on a eu la chance de jouer le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Bon, je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, et je pense qu'on a été plutôt pas mal sur la communication. Donc on a surfé là-dessus pour augmenter notre visibilité, et cette année à Versailles c'est un peu pareil, avec le parcours en Coupe de France, en ayant eu une com qui soit en adéquation, je pense, avec le parcours. Bon, on s'est rendu compte qu'on a multiplié notre présence sur les réseaux sociaux, et que par ricochet, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent au club. Donc voilà, potentiellement, c'est même si le plus important pour moi reste toujours de déjà fidéliser son public, mais c'est aussi un nouveau public qui peut être ciblé pour la suite. On sait pertinemment que sur le début de la saison prochaine, il y aura des gens qui vont venir nous voir par curiosité par rapport à notre parcours de cette année. Et je pense que la communication y est aussi associée à ce genre de choses.
Ok, je vais revenir sur ton activité avec M7 Conseil. Même si aujourd'hui c'est en stand-by. Déjà, est-ce que tu peux nous dire vraiment la différence entre une agence comme la tienne et le rôle des agents sportifs? Est-ce qu'il y a vraiment une différence, ou finalement tu remplissais le rôle d'un agent sportif également?
Non, il y a une grande différence et qui n'est pas négligeable, c'est que l'agent sportif en France, il est censé être licencié. Il y a une licence à passer au niveau de la Fédération Française de Football. Après, c'est toujours le même problème. Aujourd'hui, un joueur qui est conseillé par son frère, par son père, qui n'a pas spécialement envie d'avoir quelqu'un qui soit licencié Fédération Française de Football, vous ne pouvez pas lui imposer. Donc la réflexion, elle est de se dire que de toute façon, légalement, le club ne pourra pas indemniser un agent qui n'est pas licencié. Ça, c'est la règle. C'est la Fédération Française de Football qui l'impose. Donc voilà, maintenant, si le joueur... dans son parcours a jamais ressenti le besoin de faire appel à un agent, on ne peut pas non plus lui imposer de le faire. Donc voilà, après moi, en ce qui concerne l'agence M7 Conseil, c'était un cadre qui était un peu plus large, puisque l'idée c'était de faciliter la tâche des athlètes pour qu'ils puissent se concentrer sur leur pratique. Donc on n'était pas forcément que sur la partie discussion avec les clubs, entre les clubs et les joueurs. C'était aussi de leur proposer de la mise en relation, que ce soit sur des formations, comme on en parlait tout à l'heure pour l'aspect professionnel, mais ça peut être sur de la gestion de patrimoine, ça peut être sur un tas d'autres choses qui leur permettaient, entre guillemets, de se débarrasser de toute cette partie-là et de se concentrer uniquement sur leur pratique sportive. Donc voilà, il y avait aussi effectivement peut-être aussi la partie communication pour certains qui avaient besoin de développer leur image sur les réseaux sociaux.
Ok. Bah, tu proposais une large palette de services. Mais c'est un marché qui est ultra concurrentiel aussi. Comment on tire son épingle du jeu?
Le réseau. c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quel est le bon terme, mais pas plus compliqué que ça, en tout cas sur le démarrage. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est très concurrentiel. Y a beaucoup de gens qui travaillent bien. Il y en a beaucoup qui travaillent très bien. Il y en a quelques-uns qui travaillent un peu moins bien. Mais la clé pour moi, elle est à la fois dans le réseau et dans ce que vous proposez au départ, au démarrage. Puisque c'est ce que vous allez proposer en premier qui va attirer ou pas d'autres personnes derrière. Donc si vous bossez bien sur le démarrage avec un réseau qui est intéressant, après pour moi c'est le bouche à oreille après qui fonctionne le plus souvent. Parce que Voilà, tu l'as dit, il y a tellement de concurrence que c'est très compliqué de se démarquer et que c'est compliqué aussi pour les athlètes de choisir. Donc forcément, un athlète qui a une connaissance en commun, qui lui dit, voilà, j'ai bossé avec un tel et ça s'est bien passé, consciemment ou inconsciemment, il va y aller plus facilement.
En plus, t'étais pas orienté que sur le football.
Non, même si par rapport à mon parcours, forcément, c'était la grande majorité de l'activité, mais effectivement, moi j'ai toujours été intéressé par plein d'autres sports. J'adore le MMA, j'adore le tennis. Il y a d'autres sports que je suis sans être un grand fan. Donc je me suis toujours dit que je voyais pas l'intérêt de fermer ça qu'au foot, en fait. Les sports, et puis même moi, je l'avais pris comme l'idée de me dire je suis centré sur le foot depuis des années, m'ouvrir à d'autres sports, c'est aussi m'ouvrir moi la possibilité d'apprendre des choses. Parce qu'on apprend sur le fonctionnement d'un club de rugby, on apprend sur le fonctionnement d'athlètes individuels aussi. On parlait de l'athlétisme, le tennis, c'est des comportements qui sont différents. Et je trouve que moi, dans ma culture personnelle et dans ma manière d'appréhender les choses, ça me permettait aussi d'avoir une vision un peu plus large. Et de me dire, bah tiens, finalement, il y a cette partie-là qu'on n'a pas dans le foot, ça peut être intéressant. Alors peut-être parfois à amener dans le foot, ou à se dire, non, justement, là, c'est très différent, donc sois attentif. Dans ce sport-là, c'est comme ça, dans le foot, ça peut pas être comme ça. Donc je trouve qu'en termes d'apprentissage, à la fois pour moi et pour l'agence, c'était super intéressant de s'ouvrir à d'autres sports. On a eu l'opportunité de côtoyer une boxeuse, même si ça a été très court sur le laps de temps, parce que c'est arrivé sur la fin enfin, quasiment sur la mise en stand-by de l'agence. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir que les réflexions sont très différentes par rapport au monde du foot. Et moi, ça a été enrichissant pour moi.
Okay. Mam, toi aussi, tu fais la même analyse puisque tu t'occupes aussi de talent. Est-ce que tu penses que le réseau fait une grosse part du travail?
Bah, moi, je suis totalement d'accord puisc que nous, on ne faisait pas de prospection. C'était uniquement de la recommandation bah, agréablement surpris par les demandes, en fait. Puisque même s'il y a des sports où tu penses qu'ils sont très très bien encadrés, tu avais des demandes, est-ce que vous pouvez nous aider sur ci, ça, ou des personnes qui avaient des agents. Donc on disait toujours, on n'a pas vocation à être agent, on est dans un management d'image et des à côté. Et beaucoup de gens ne le comprenaient pas forcément, mais quelle est la différence? Alors que bah, dans les pays anglo-saxons, ça se fait. Un agent aujourd'hui qui a un portefeuille, je sais pas, dans le football de 50 joueurs, il ne peut pas dire je vais gérer ses contrats, je vais gérer son image, j'ai 50 joueurs, en termes géographiques, bah, tu dois être là, là, là. Et tu es obligé d'avoir cet accompagnement, ces personnes de confiance pour pouvoir le faire et surtout pour avoir l'expertise au maximum. Quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses, je pense que parfois ça peut bah, biaiser un peu certains secteurs, certains domaines. Il faut toujours, je pense, pouvoir s'appuyer sur des acteurs différents pour le faire. Aujourd'hui, dans l'agence, je ne suis pas un créateur de contenu. Il y a une personne qui est dédiée pour ça. Sur l'influence, il y a une personne qui est dédiée pour l'influence parce que bah, même s'il y a des échanges et on partage des choses, tu ne peux, pour moi, c'est sûr, tu ne peux pas tout faire. Et c'est pour ça que c'est important pour des joueurs de foot d'avoir cet accompagnement et dans d'autres sports aussi parce que bah, chaque personne qui a, ou chaque interlocuteur a sa spécificité et va aussi pouvoir développer et amener plus loin un athlète ou un sportif, un footballeur ou autre. Donc c'est hyper intéressant. Et franchement, voilà, le côté conseil doit beaucoup rentrer, surtout dans des sports comme ça, parce que c'est vraiment la qualité du conseil qui va être importante. Et on le voit, hein, il y a des grands joueurs ou des très bons joueurs ou des internationaux français qui ont fait des erreurs dans leur communication ces dernières années. Et ils comprennent pas les critiques des gens, mais la critique elle vient parce que déjà ton conseil est mauvais. Si tu as un bon conseil, tu fais pas cette erreur-là, tu postes pas telle et telle chose, et faut savoir le maîtriser. Une personne qui joue en National 3 et qui fait un poste et qui se trompe sur sa com, ça aura moins d'impact qu'un mec qui est en équipe de France A et qui va faire une erreur de la même erreur. Mais c'est dès le début où on t'apprend à pouvoir faire telle chose, à comprendre aussi pourquoi tu le fais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui postent, mais ils ne savent pas pourquoi. Et il faut aussi comprendre. Et c'est vrai que là, on a un intervenant, encore une fois, de qualité. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand tu fais un conseil, quand tu accompagnes une personne, c'est de faire un boulot qui est bon. Et une fois que ton boulot est bon, bah, d'autres personnes viendront. Et c'est cool.
Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne communication sans qu'elle soit aseptisée? Puisque tu parlais du fait des erreurs de communication de certains joueurs qui ont été faites, qui ont communiqué, qui ont posté la mauvaise chose au mauvais moment. Mais on reproche aussi souvent aux sportifs de communiquer de manière robotique, entre guillemets, etc. Est-ce que c'est possible d'avoir une communication qui est quasi parfaite sans forcément aseptiser son discours.
Bah, déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une communication quasi parfaite parce que déjà, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ouais. Et même, ça va même plus loin parce que des fois, dans ta communication, pour une personne, c'est difficile de comprendre qu'il ne comprend pas, en fait,
ouais.
ou qu'il ne comprend pas un message. Et donc, du coup, ça biaise complètement ouais. le truc. Et donc, aujourd'hui, bah, y aura des gens qui n'aiment pas, des gens qui ne comprendront pas, et faut faire avec. Donc, les joueurs ou les gens qui font énormément attention à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, entre les autres discours qui disent « bah non, moi, je ne lis pas la presse, c'est ma famille qui me dit ce qu'il y a écrit ouais. », on sait que tu vois, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça parce que c'est aussi un sentiment humain, tu vois, de vouloir savoir ce qui se dit. Mais c'est la vie, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est comprendre ça et je pense qu'il faut, je sais pas comment tu fais, mais faire comprendre aux gens avec qui tu bosses que ça va arriver. Il y a des moments où les gens ne seront pas forcément au top, il y a des moments où ils seront très bons et la communication et le travail de conseil, il est fait aussi comme ça pour éviter justement tout type soit de dérapage ou d'impacter entre guillemets le sportif ou la personnalité parce qu'il a reçu un mauvais message et autres et d'avoir sa propre communication, dire ce qu'il aime. Alors faut pas faire comme Britney Spears aujourd'hui qui pète les plombs et qui se met toute nue tout le temps, mais au moins comprendre, vraiment comprendre les choses et c'est très important.
Okay. Quelque chose à ajouter?
Non, il a plutôt tout dit et bien dit. La difficulté, elle est là, elle est de faire comprendre à l'athlète quand il communique sur ses réseaux sociaux privés, personnels à lui, que le message qu'il va envoyer, qu'il le veuille ou non, il n'est pas privé en fait. Il représente aussi en partie ce que lui est. Donc, c'est-à-dire si c'est un joueur de foot, c'est son club en partie qui parle un peu. Et ça, ce n'est pas toujours facile à comprendre pour l'athlète. Donc je pense qu'il y a un travail qui est à faire très tôt. On l'avait fait nous à Niort au niveau du centre de formation, on avait fait des échanges avec les jeunes par rapport à ça pour leur faire comprendre que quand ils parlent au final il y a plusieurs personnes qui parlent et ça ils ont parfois du mal à le comprendre. Après effectivement une parfaite communication, qu'est-ce que c'est au final? Moi je pars du principe qu'il faut déjà communiquer avec ce qu'on pense vraiment. Ça je pense que c'est une donnée clé, ce qui n'est pas toujours le cas en termes de communication. Et après, à partir de là, il faut juste être attentif aux messages qu'on envoie, au timing aussi, qui est important quand on les envoie, et puis la forme, c'est une clé aussi, mais c'est des choses toutes bêtes. À l'agence, parfois, il y a des athlètes qui étaient sollicités par des marques, donc avec des contrats qui pouvaient être plus ou moins intéressants. Et quand vous dites à l'athlète, mais est-ce que la marque, les valeurs correspondent à ce que tu penses, bah, il ne s'est pas posé la question en fait. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais ils n'ont tellement pas l'habitude que lui, il voit le contrat, il voit la possibilité de communiquer, de visibilité. Ouais, ok. Mais le message, est-ce que le message de cette marque correspond un petit peu, un minimum, toi, à ta personnalité? Et je pense que c'est une clé aussi. La com, c'est aussi ça, c'est être en adéquation avec à la fois ce qu'on dit, mais à la fois avec les gens qui nous représentent, les marques qui nous représentent. Et c'est des choses qui sont importantes et c'est un dossier très compliqué, beaucoup plus que beaucoup d'athlètes ne le pensent. Voilà, on a beaucoup tendance à mettre en avant la communication de Kylian Mbappé pour le reprendre, parce que c'est une sorte d'exemple. Mais quand il se trompe un tout petit peu, on lui tombe très vite dessus. Mmh. Et on oublie toutes les fois où il a été parfait à s'exprimer depuis qu'il a 17 ou 18 ans. Quoi. Donc les gens, ils sont attentifs beaucoup plus souvent, et notamment sur les réseaux sociaux, au seul truc que vous allez faire de travers, plutôt qu'aux 97 ou 98% que vous allez bien faire. Donc la com, c'est un sujet très sensible, très délicat. Il faut faire attention parce que ça peut avoir parfois des conséquences très très graves.
Ok, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu plus d'actualité. Donc les JO 2024 qui arrivent à grands pas. En ce qui concerne le football, on a tendance à reprocher à la France de négliger un peu cette compétition. Donc comment vous l'expliquez ça?
Déjà, c'est dans la partie réglementaire déjà. Il y a une chose qui est très différente en France par rapport à certains autres pays. C'est que nous, en France, on a la possibilité de refuser que les joueurs aillent en équipe de France olympique. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. En Espagne, il me semble, par exemple, les joueurs, quand ils sont sélectionnés, ils vont en équipe olympique. C'est pas tu peux y aller ou tu ne peux pas y aller. Donc déjà, à partir de là, ça crée une différence dans la manière d'appréhender le truc. Après... c'est une question d'intérêt en fait. Quand on est joueur, je pense que les Jeux Olympiques, même quand on est joueur de foot et que c'est pas censé être un sport représentatif au maximum des JO, je pense que c'est un rêve pour n'importe qui en fait. Donc après, c'est dans la manière d'amener la chose, parce que effectivement, c'est sur une période où les joueurs sont censés être au repos, être en vacances. Maintenant, quand on voit ce que ça représente comme engouement populaire et ce que ça peut être dans la carrière d'un athlète, moi j'ai toujours du mal à concevoir effectivement qu'on puisse se poser la question de savoir si c'est bien d'envoyer des joueurs aux Jeux Olympiques ou pas. Donc j'ai du mal avec cet aspect-là. Il est difficile à expliquer, je trouve.
Moi, pour ma part, je pense que les JO, ça reste important, entre guillemets, même pas entre guillemets, ça reste important pour le pays. C'est vrai que c'est dommage que la FFF, entre guillemets, ne prenne pas autant au sérieux, et même si je comprends aussi les clubs, hein, c'est une période assez importante, hein, et même en étant factuel, si tu rates ta préparation du début de saison, ça peut impacter tes performances tout au long de la saison. Donc forcément, ça touche le club. Après, là, on voit que les discours commencent un peu à changer, les joueurs se positionnent de plus en plus, parce que les joueurs veulent faire ces JO en France. Vivre des JO, déjà, c'est vraiment incroyable. Il y a deux aspects pour eux. Il y a l'aspect aussi des sponsors, hein. Avoir un top joueur présent sur ces JO dans son pays, ça va apporter une visibilité encore plus grande. L'autre sujet, c'est, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les joueurs qui ont participé aux JO pour leur pays, l'impact que ça a eu, a toujours été énorme. Énorme, et la richesse, partager. Les JO, c'est un moment, réellement, quand je dis de partage, c'est vraiment de partage. T'es assis avec tout le monde, des grandes stars, d'autres personnes, enfin, vraiment tout le monde. En 2016, Neymar, quand il était dans son pays pour ses JO, il était logé à la même enseigne que tout le monde. Donc c'est aussi un très beau message à faire passer aux plus jeunes de n'importe quel sport. Donc ça serait bien qu'on puisse jouer le jeu. Je comprends les deux parties, hein, les clubs, je comprends la fédé, et je comprends aussi cette envie d'avoir entre guillemets le contrôle, mais à un moment il faut lâcher un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs vont essayer de plus mettre ça dans leur contrat. Aujourd'hui on est plus dans une liberté entre guillemets, où là quand tu disais les athlètes ne comprenaient pas s'ils avaient vraiment, si les valeurs de la marque qui étaient intéressées par eux avaient vraiment, il y avait une synergie ou un réel intérêt de leur part au final, là on est dans un truc où on est dans le contrôle. Un joueur veut pouvoir être en adéquation avec la marque qu'il va pouvoir porter sur son maillot ou autre, et les JO, c'est la même chose. C'est aujourd'hui, voilà, les gens ont des valeurs, ils représentent un pays. Est-ce qu'ils peuvent le représenter avec toute cette cour de sportifs sur un moment qui est tous les 4 ans et même des fois tous les 100 ans, hein, parce que les Jeux à Paris, ça revient 100 ans après, c'est assez fou, et tout est réuni pour avoir une belle fête, et ces personnes veulent y participer, donc c'est honorable.
Ok. Et de manière plus globale, qu'est-ce que les Jeux à Paris pourront apporter au développement du football français, même au niveau du football amateur, par exemple ?
C'est difficile à quantifier. Je suis pas certain que la présence des JO puisse avoir un réel impact sur le développement en tant que tel du foot. Mais encore une fois, c'est une énorme visibilité sur ce sport-là et sur l'ensemble des autres sports. C'est plus... en termes de valeur et de ce que ça représente, je pense que ça peut être très, très significatif. Après, l'impact sur le développement du foot, si, il y aura peut-être plus d'inscriptions
de licencié,
sur
ouais.
L'été d'après, comme ça peut être le cas quand il y a une Coupe du Monde ou un Euro, mais encore une fois, le foot est quand même, je pense, suffisamment développé déjà de base. Je pense que l'impact des JO est plus sur d'autres sports que sur le foot.
Oui, il le sera forcément sur d'autres sports, mais après, là où ça va toucher le foot, et je pense d'un point de vue entre guillemets local, ça sera sur les infrastructures.
Okay.
Puisque avec autant de pays qui vont venir se préparer en amont des JO et même un an avant, le plan Macron avec 5000 nouvelles infrastructures aussi, tout ça, ça va jouer. Je pense qu'il y a des villes qui sont assez smart en se disant « Ok, il y a des subventions, de l'ANS, est-ce qu'on ne va pas jouer sur le développement justement du club ou sur la piste d'athlée à côté, refaire le synthé ou essayer d'avoir une pelouse hybride ou une pelouse en herbe, etc. » Donc, il y a aussi ça qui va jouer. Donc, il y aura une économie locale forcément qui va être importante pour certaines villes, hein, qui vont accueillir des délégations de je sais pas moi, 500 personnes sur 2-3 semaines, voire un mois. Donc, ça va beaucoup jouer. Et après, ce qui est hyper important, c'est ce côté héritage qui va rentrer en jeu pour beaucoup. Hier, on était avec le monsieur qui organise, enfin le président du comité ivoirien de football, qui disait que accueillir une CAN, on se rend pas compte. Ouais. Il y a un développement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour justement derrière pouvoir développer le pays, le football, le côté local, hein, les stades, les hôtels et autres. Et donc nous, on va devoir justement bénéficier de cet impact-là. Sachant que voilà, la France, on avait quand même 84% des infrastructures qui étaient déjà créées, donc ça va vraiment être au niveau de petites infrastructures ou de petits lieux d'entraînement, d'optimiser, de le rendre performant, et j'espère que ça servira à nos enfants et à la jeunesse sportive française qui arrive.
Ok, merci à vous pour vos réponses. On arrive à la fin de ce podcast. Merci Mickaël d'avoir répondu présent.
Merci à vous pour l'invitation, c'était top.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup. Franchement, très cool. Et à bientôt. À bientôt. Et on espère le meilleur pour Versailles l'année prochaine.
On va travailler pour ça, en tout cas.
À bientôt.